Alors, quelques mots sur Jimi Hendrix, vous connaissez certainement. Il est né en 1942, mort le 70. Il fait partie du fameux club des 27, les musiciens qui sont morts à 27 ans, tragiquement. Un guitariste qu'on peut dire un peu iconique. Tout le monde a en tête la vision d'Hendrix avec sa Stratocaster en train de la brûler sur scène, enfin en train d'incendier littéralement les planches. Et puis, Jimi Hendrix, c'est 4 albums studio, I.O. Experience, Axis Bold as Love, Electric Ladyland et Band of Gypsies. Et puis, des dizaines, voire des centaines d'autres disques parus après sa mort. Régis Consoli, il a fait un boulot de fou, c'est qu'il s'est attelé à regarder un peu tous ces bouquins-là, tous ces disques-là. Et donc, ça donne ce livre assez magistral, hein, Jimi Hendrix, Le rêve inachevé. Moi, j'ai une question très bête avant de laisser la place à la musique, parce que ce soir, il va nous faire écouter sa sélection des 10 morceaux incontournables de Jimi Hendrix, en nous expliquant qu'est-ce que c'est, pourquoi. Moi, j'ai une question toute bête, c'est comment est-ce qu'on est assez fou pour s'atteler à cette montagne qui est la discographie pléthorique de Jimi Hendrix.
Alors, bonsoir à tous tout d'abord, merci d'être venus si nombreux. Alors, en ce qui concerne le projet lui-même, en fait, tout ça est né sur Internet. C'est-à-dire, moi, je me souviens que quand j'étais jeune fan d'Hendrix, trouver des renseignements sur les disques, parce qu'il faut savoir qu'il y a des disques d'Hendrix où Hendrix ne joue pas une seule note, c'est un petit peu gênant qu'on les achète. C'était, à mon avis, assez important de savoir effectivement quels étaient les disques références. Quels étaient les disques à éviter absolument, quels étaient les pirates qu'on pouvait posséder ou au contraire éviter à tout prix. Et donc avec quelques passionnés, dont mon ami Guillaume qui est dans la salle, qui m'a fait plaisir de venir, on avait construit un forum, tout simplement, à l'époque Facebook était beaucoup moins à la mode, et donc on avait construit un forum consacré aux guitaristes, qui était mais vraiment destiné aux spécialistes, hein. C'était le forum où on allait explorer les pirates, les meilleures versions, etc. Et comment dire, je dirais, on en était resté à ce seul stade-là. En gros, le but de ce site internet, c'était tout simplement de faire en sorte que, alors petite précision, en anglais, il existait vraiment énormément d'informations sur internet qui étaient de super qualité, mais en France, il n'y avait pas grand-chose. Donc l'idée, c'était de répondre un petit peu aux fans les plus pointus, avec un site internet qui était vraiment, en l'occurrence, pour les passionnés, vraiment pour les dingues. Alors, le projet du livre lui-même, là, c'est né de la rencontre que j'ai eue avec Yves Jolivet, donc, qui est le responsable des éditions Le Mot et le Reste, qui, pour les 40 ans de la mort de Jimi Hendrix, m'avait demandé si justement je pouvais faire un livre où on allait revenir à la musique d'Hendrix. Parce que, comme tu viens très bien de le souligner, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui vous n'avez pas d'écran, vous n'avez rien. On va juste avoir moi qui vais un petit peu discuter, pas trop parce qu'il y a la musique qui est là. Et on va vraiment revenir à la musique, parce que souvent Hendrix a été complètement éclipsé par le showman. C'est-à-dire souvent on retient d'Hendrix le mec qui joue avec les dents, le mec qui brûle sa guitare, les orgies avec les femmes, etc. Mais on finit souvent par oublier que c'est un musicien génial. Donc je dirais, l'objet du livre, en fait, c'était vraiment faire ce qu'on a. Moi, je qualifierais ça de biographie musicale, c'est-à-dire c'est vraiment une biographie qui est centrée sur son œuvre. Voilà, c'était ça le projet. Et bon, j'espère, à mon modeste niveau, avoir contribué à faire avancer les choses en langue francophone.
Voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc le principe, ça va être, tu veux dire quelques mots, et puis après on écoutera hein, ta sélection de 10 morceaux de Jimi Hendrix. On va commencer par un immense standard, quasiment le morceau quand on se dit, quand on est grand public, on va dire Jimi Hendrix égale Hey Joe.
Alors tout à fait. Alors avant d'attaquer Joe, je vais vous préciser un petit peu ce qu'a présidé ma sélection. J'aurais pu faire une sélection hyper pointue, vous ramener des pirates avec John McLaughlin, Larry Young, tout ce qu'on veut, ce qui aurait été aussi très intéressant. Je pense que là, l'optique, c'était pas justement de revenir à tous les morceaux rarissimes d'Hendrix et compagnie. C'était au contraire de célébrer l'œuvre, et pour une fois, vraiment célébrer l'œuvre, notamment qui a été faite du vivant d'Hendrix. Parce qu'on a justement, il y a eu tellement de disques post-mortem, et malheureusement pas toujours de qualité, qu'il me semblait justement intéressant de revenir à l'essentiel. Et donc, fort logiquement, eh bien, on va commencer cette sélection par le morceau par lequel tout est débuté. à savoir Edjo. Alors avant de vous parler d'Edjo, à mon avis, c'est important de resituer Hendrix tout simplement historiquement. Hendrix naît le 27 novembre 1942. Il a une carrière de sideman qui commence au début des années 60 aux États-Unis. Comment est-ce qu'on pourrait vous décrire ça? Sans être un musicien de studio hyper recherché, il joue quand même à l'époque avec quelques vieilles légendes comme Little Richard. Cela dit, il faut quand même savoir que l'époque où Hendrix jouait avec Little Richard, c'est un moment où Little Richard est un peu en perte de vitesse. Hein. Il ne joue pas avec Little Richard de la grande époque. Mais voilà, il a quand même un statut suffisamment important comme musicien de studio pour pouvoir jouer avec des gens comme ça. Alors là, il faut se remettre aussi dans le contexte américain des années 60 et notamment de ce qu'est un artiste noir, notamment de rhythm blues aux États-Unis. Si vous êtes juste guitariste, vous n'allez jamais faire carrière dans les années 60 aux États-Unis, sauf à jouer du jazz. Mais dans un contexte de rhythm and blues, il faut chanter. Accessoirement, avoir une chorégraphie où tout le monde va être là avec son costume, etc. Normalement, dans la position de Jim Hendrix, au mieux, vous êtes un sideman. Vous pouvez être éventuellement un sideman très recherché. Hein. Il y a des musiciens de studio et de scène qui ont fait carrière là-dedans et qui sont très connus. Mais en tout cas, vous n'allez jamais devenir une star juste en tant que guitariste. D'ailleurs, vous remarquerez qu'aujourd'hui encore, vous compterez sur les doigts de la main des gens qui deviendront des stars connues du grand public juste avec leur jeu de guitare. C'est devenu, enfin, pour devenir numéro un des charts américains en étant guitariste, vous n'avez pas d'exemple contemporain. Vous avez des gens qui ont connu un certain succès dans des catégories précises. On peut donner des exemples. Si vous pensez des exemples plus récents, ça va être des gens comme Satriani, où on peut avoir un certain succès public, mais qui est tout à fait incomparable avec le succès d'Hendrix. Alors, comment Hendrix a du succès, et c'est là où c'est très intéressant de revenir là-dessus, c'est que vous avez un guitariste noir américain qui, depuis des années, travaille aux États-Unis et en gros a une carrière qui ne décolle pas, et qui, au mois de juin 66 de mémoire, a la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Chas Chandler. Alors, Chas Chandler n'est peut-être pas connu du grand public en France, néanmoins, c'est un bassiste à l'époque, un bassiste assez important, c'est le bassiste d'un groupe qui s'appelait les Animals. Alors les Animals, vous connaissez tous, House of the Rising Sun notamment, popularisé par Johnny Hallyday, on y reviendra, avec le pénitencier. C'est aussi le groupe qui a fait Don't Let Me Be Misunderstood. Bon bref, à l'époque, peut-être pas un groupe au même plan que les Stones ou les Beatles, mais déjà un groupe de premier ordre. Et le fameux Chas Chandler, qui, comment dire, n'est pas le musicien phare de groupe, hein, c'est plutôt Eric Burdon en l'occurrence, décide d'arrêter sa carrière de musicien pour se consacrer à la production. Et sur les bons conseils d'une petite amie de Keith Richards de l'époque qui s'appelait Linda Keith, va retrouver le fameux Jim Hendrix dans un café, dans un bar, un café-concert de l'époque qui s'appelle le Café Wa, et en l'occurrence entend Hendrix jouer. Et là, c'est tout de suite le choc pour Chas Chandler qui se dit comment ça se fait que ce mec-là soit pas signé, que ce soit pas une énorme star. Il se dit c'est incroyable quoi. Et donc, assez rapidement, parce que finalement c'est l'affaire de quelques semaines, il fait en sorte d'importer Jimi Hendrix en Angleterre, et Jimi Hendrix donc prend le 23 septembre 1966 l'avion pour arriver à Londres. Et alors là, dès son arrivée à Londres, les choses se passent très vite. C'est-à-dire Hendrix arrive à Londres le 23, Chandler décide de former un groupe en recrutant des musiciens sur audition. En l'occurrence, on n'est pas du tout la bande de copains. Et donc, une semaine plus tard, est recruté un bassiste du nom de Noel Redding, qui a la spécificité de même pas être bassiste, il est juste guitariste, mais sauf qu'Hendrix aimait bien sa coupe de cheveux. Véridique. Et peu de temps après, rencontre un batteur qui était relativement inconnu à l'époque, du nom de Mitch Mitchell. Alors, on va revenir rapidement à Johnny Hallyday, parce que c'est l'époque où Johnny Hallyday rencontre Jim Hendrix en club, et lui propose de faire la première partie de certains de ses spectacles en France. Alors ce qui fait que c'est assez intéressant, la première version qui existe d'Edjo, en fait c'est une version qui a été enregistrée pour Europe 1, qui précède la version que vous connaissez du fameux 45 tours. En fait, on entend les tout débuts du Jimi Hendrix Experience, c'est-à-dire c'est vraiment ça va être le quatrième ou cinquième concert du Jimi Hendrix Experience, pour le coup en première partie de Johnny Hallyday. Alors, petite précision, et je termine juste là-dessus avec notre ami Johnny. Johnny, avec les années, n'a cessé d'enfler la légende en parlant de Johnny Hallyday, de Jimi Hendrix, à longueur de temps. Bon, on peut apprécier Johnny Hallyday, par contre, sa mémoire est sans doute un petit peu défaillante et sa tendance à la mégalomanie ou la mythomanie, elle aussi considérable. C'est qu'en fait, généralement, il raconte n'importe quoi. C'est-à-dire, il va raconter que son fils jouait de la batterie avec Hendrix, alors que son fils doit avoir 4 ans quand Hendrix est mort. Enfin, ce genre de choses, quoi, qui sont toutes complètement bidons. Donc voilà, quand Hallyday donne une interview et parle d'Hendrix, vous pouvez savoir que 99% est faux. Donc, on va revenir à notre fameux Ed Joe. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Ed Joe n'est pas un titre de Jimi Hendrix, c'est une reprise. Hendrix lui-même pensait que c'était un morceau traditionnel, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un morceau qui a été signé par Billy Roberts. C'est un morceau qui était assez connu, en fait, dans les années 60. C'est-à-dire, il y a une version d'un groupe américain qui n'est pas connu en France, qui s'appelle The Leaves. Mais un groupe beaucoup plus connu comme les Byrds avait repris Ed Joe. Alors, il s'avère effectivement qu'avec les années, Ed Joe est devenu un petit peu, est totalement assimilé à Jimi Hendrix. C'est vrai que quand on pense à Hendrix, on pense à Ed Joe, et quand on pense à Ed Joe, on pense à Hendrix, mais Hendrix n'est pas l'auteur d'Ed Joe. Alors, autre coup de pari qui est assez intéressant, quand on revient à Chas Chandler, c'est qu'en fait, Chas Chandler, dans ses mémoires, dit qu'à l'époque où il a rencontré Hendrix, Hendrix ne chantait même pas. Et manifestement, tout le monde s'accorde à dire qu'il était d'une timidité maladive, chantait peu, etc. Il existe quelques enregistrements où il chante, avant même qu'il vienne en Angleterre. Mais ils sont très rares. En tout cas, voilà, si Hendrix chantait, il chantait quand même de manière assez marginale. Et donc, ce qui est assez fascinant quand on écoute ce fameux Ed Joe, c'est que vous voyez vraiment quasiment les débuts d'Hendrix comme chanteur. Vous voyez, alors, souvent on parle d'Hendrix, le guitariste. Et là, vous verrez en fait à quel point, là, il a un chant qui est assez lancinant, qui est très rythmique. Et en fait, il fonctionne absolument à merveille. Et ce qui est assez incroyable quand on écoutait Joe, c'est que tout le monde vous parle d'Hendrix comme l'homme qui a révolutionné la guitare. Or, en l'occurrence, quand on écoutait Joe, vous aurez beau écouter Joe 20 fois, 30 fois, 50 fois, c'est-à-dire, c'est ce mec-là qui a révolutionné la guitare, vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire, la partie de guitare rythmique, c'est une excellente partie de guitare rhythm and blues, mais qui est assez classique selon les critères de l'époque. Et le solo de guitare, ouais, il fait plus penser à B.B. King qu'autre chose. Il est encore remarquable, mais n'a rien de révolutionnaire. Donc, place à la musique avec Ed Joe, son chant lancinant, et déjà le talent de Jimi Hendrix à la guitare.
Hey Joe, where you going with that? Ça, c'est pas une bonne idée. Oh, bah, je parle un peu.